Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercy. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le seul membre encore vivant des attentats, des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam, jugé à partir d'aujourd'hui à Bruxelles pour une tentative de meurtre lors d'une fusillade dans la banlieue de la capitale belge. Compte rendu d'Antoine Maret dans un instant. C'est la première visite d'un président turc au Vatican depuis près de 60 ans, Recep Tayyip Erdogan, reçu ce matin par le pape François pour des entretiens centrés sur la question de Jérusalem. Correspondance dans cette édition avec Antonino Gallofaro. Amazon annonce avoir trouvé un accord de règlement d'ensemble avec le fisc français. Le géant américain du commerce en ligne avait révélé en 2012 être visé par un redressement fiscal de près de 200 millions d'euros. Précision de Marie Viennot. Les Républicains remportent les deux sièges attribués lors des deux législatives partielles d'hier. La France du réel s'est exprimée, affirme Laurent Wauquiez, malgré 8 mois de communication mensongère. Et puis la visite d'Emmanuel Macron demain en Corse, qui s'annonce particulièrement délicate. Le président de l'exécutif local, Gilles Simeoni, demande à l'État d'accepter le dialogue avec les nationalistes, sans quoi il risque de provoquer une crise politique, analyse d'Anne Fauquemberg, l'invité de la séquence interview, le commissaire européen Pierre Moscovici est dans la dernière partie de la grande table, Olivier Jesper.
Il a développé une vision singulière du monde qui nous entoure. Il dit se remettre en question, penser contre lui-même. Avec quelle grille de lecture, quelle sensibilité? Le monde de Kamel Daoud, écrivain, journaliste, notre invité à partir de 12h55.
Le seul membre donc encore vivant des commandos qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, Salah Abdeslam, est donc jugé depuis ce matin à Paris pour tentative de meurtre. C'était lors d'une fusillade à Forest d'une commune du sud de l'agglomération bruxelloise et c'était 3 jours avant son arrestation. Dès l'ouverture, il affirme qu'il ne souhaite pas répondre aux questions. Il affirme n'avoir pas peur de ses juges. Je n'ai pas peur de vous. Je place ma confiance en Allah. C'est ce qu'il a donc lancé ce matin. Antoine Maret, vous nous faites en direct avec le compte-rendu de cette première audience.
Eh bien, c'est à 8h45, exactement comme prévu, que les deux prévenus entrent menottés dans la salle d'audience, entourés chacun de 2 policiers cagoulés. Aucun des 2 hommes ne souhaite être photographié ou filmé. Salah Abdeslam a les cheveux mi-longs, ondulés et plaqués en arrière. Il porte une barbe et il est habillé en blanc. La présidente lui demande « Êtes-vous bien Salah Abdeslam ?»« Je ne souhaite pas répondre. »« Vous êtes bien né le 15 septembre 89 ?» « Je ne souhaite pas répondre », répète-t-il. Le ton est donné, comme on pouvait s'y attendre, le prévenu n'a pas l'intention de coopérer avec la justice belge. « Vous voulez bien vous lever ?» lui demande la présidente avant de l'interroger. « Je suis fatigué », se contente-t-il de répondre, toujours assis. La présidente poursuit. « Vous avez été entendu 2 fois lors de l'instruction. À chaque fois, vous avez refusé de répondre. Mais vous avez fait la demande expresse d'être présent lors de ce procès. Allez-vous accepter de parler cette fois ?»« Je ne souhaite pas répondre à aucune question. » Pourquoi être venu dans ce cas? On m'a demandé de venir à ce procès dont je suis un acteur. Je garde le silence, c'est mon droit. Ça ne fait pas de moi un coupable. Qu'on se base sur les preuves scientifiques et tangibles, pas en fonction de l'opinion publique et des médias. La présidente tente alors d'instaurer une sorte de dialogue avec le prévenu. Le tribunal est là pour juger les faits du 15 mars, rien d'autre. Nous sommes là pour connaître la vérité. Réponse de l'intéressé. Les musulmans sont jugés de la pire des manières. Pour eux, la présomption d'innocence n'est pas respectée. Mais nous n'avons aucun préjugé, lui rétorque la présidente. S'ensuit alors un monologue religieux de Salah Abdeslam. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Je reconnais Mohamed comme seul prophète. Le seul juge pour moi, c'est Allah en qui je place toute ma confiance. Silence dans la salle. La présidente marque une petite pause et conclut. Le tribunal regrette cette absence de coopération. Gardez le silence et votre droit. Mais si vous changez d'avis et que vous souhaitez prendre la parole pendant l'audience, il n'y aura aucun obstacle. L'audience a été suspendue il y a environ 3 quarts d'heure, plus tôt que prévu du coup. Elle reprendra cet après-midi vers 13h30.
Merci beaucoup Antoine Maret, donc avec Jean-André Giannucchini à Bruxelles, capitale belge, où est donc jugé Salah Abdeslam depuis ce matin. C'est la première visite d'un président turc au Vatican depuis près de 60 ans, Recep Tayyip Erdogan, qui a été reçu ce matin par le pape François pour des entretiens qui ont été centrés sur la question de Jérusalem. Le chef de l'église catholique, le dirigeant turc, dont les positions sont souvent été antagonistes, ont trouvé donc un terrain d'entente face à cette décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. On est en ligne avec Antonino Gallofaro. Bonjour.
Bonjour.
Le sujet est apparemment plus consensuel que la situation en Syrie entre les 2 hommes.
plus consensuel en effet, puisque les deux hommes partagent la même position sur cette question. Après l'annonce américaine de déplacer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, le président turc cherche le soutien moral du pape, d'abord avec un appel téléphonique fin décembre, puis aujourd'hui avec cette rencontre, une première en 59 ans. Pour des raisons diverses, ils défendent tous deux le statu quo de la ville. Du côté du Vatican, ce statut spécial internationalement reconnu doit permettre l'accès libre des fidèles de toute confession au lieu saint. Cette convergence s'est aussi vue dans les gestes. Après la rencontre, les deux hommes ont échangé des cadeaux, comme le veut le protocole, mais ils ont surtout échangé des éclats de rire, selon qui a pu assister à ce moment. Mais quant à l'échange privé entre quatre yeux qui a duré une cinquantaine de minutes, rien n'a encore filtré. Le Saint-Siège n'a encore rien communiqué, aucune déclaration non plus de la part du président turc.
Interview à la Stampa ce matin de M. Erdogan qui souligne que le statut de Jérusalem est une question centrale pour les musulmans comme pour les chrétiens et que le pape lui-même s'était engagé dans la protection du statu quo. Est-ce qu'il faut voir Antonino Gallofaro dans cette alliance entre catholiques et ottomans finalement une contre-offensive face à la diplomatie de Donald Trump?
Alors le pape François ne fait ici que rappeler la position du Saint-Siège. Il l'avait déjà rappelé en décembre au lendemain de l'annonce de Donald Trump, que les positions de François et du président américain divergent sur de nombreux dossiers. Ce n'est pas une nouveauté, on l'avait vu avec la volonté américaine de construire un mur aux portes du Mexique. Avec Jérusalem, une nouvelle fois donc, le pape a fait part de sa profonde préoccupation. Mais la défense du statu quo pour garantir l'accès aux lieux saints, aux juifs, aux musulmans et aux chrétiens, passe pour le pape par le refus d'alliance. Le Vatican ne prend jamais clairement le parti de l'un ou de l'autre, mais se pose toujours en médiateur. Il favorise le dialogue avec tous. Il reçoit donc naturellement aujourd'hui le président turc. Le but de François, c'est toujours d'éviter les tensions et de favoriser la paix, comme il l'a plusieurs fois affirmé depuis décembre. Dans le secret des palais du Vatican, cependant, ce dialogue sur un sujet consensuel ne va pas sans un échange aussi sur les sujets qui fâchent, comme la Syrie. Là, les positions vaticanes et turques sont totalement opposées.
Antonino Gallofaro, merci beaucoup en direct de Rome. Et puis la Turquie annonce aujourd'hui avoir arrêté plus de 500 personnes qui avaient critiqué sur les réseaux sociaux l'opération Rameau d'Olivier, cette offensive militaire lancée le 20 janvier dans le nord-ouest de la Syrie. En Allemagne, on attend dans la journée ou peut-être demain l'annonce de cet accord entre sociaux-démocrates et chrétiens-démocrates pour former une nouvelle grande coalition. Plus de 4 mois après les législatives, les deux premiers partis d'Allemagne se sont dit confiants ce matin pour trouver donc cet accord de coalition. Sur le plan social, a signalé que le syndicat allemand de la métallurgie, IG Metall, a finalement accepté de reprendre aujourd'hui des négociations avec le salarial, avec le patronat. Il met ainsi en suspens sa menace d'un nouveau durcissement du conflit après une semaine marquée par des grèves de 24 heures. Amazon annonce avoir trouvé un accord de règlement d'ensemble avec le fisc français. Le géant américain du commerce en ligne avait révélé, c'était en 2012, être visé par un redressement fiscal qu'il évaluait à près de 200 millions d'euros. Et la même année, d'ailleurs, Bercy avait notifié à sa filiale française un redressement en arriéré d'impôts et en pénalités qui portait sur plusieurs années de 2006 à 2010, notamment. Alors que prévoit cet accord dont parle ce matin Amazon, Marie Viennot?
Bien, on en sait ce qu'en dit Amazon, car pour le moment, le ministère des Comptes Publics ne communique pas sur le sujet. Si on en revient au fait que l'on connaît, Amazon a eu un contrôle fiscal qui portait sur la période 2006-2010 et en 2012, le redressement exigé par les autorités fiscales françaises aurait été, selon Amazon, 200 millions d'euros. Alors, sans doute qu'Amazon n'a pas accepté ce redressement et qu'elle a fait ce qu'on appelle des recours hiérarchiques. Recours hiérarchique, ça veut dire que l'entreprise demande à discuter son cas au niveau supérieur, de l'inspecteur principal au départemental et ainsi de suite, potentiellement jusqu'au ministre. À chaque étape, l'entreprise peut voir son redressement modulé, diminuer même en fonction des arguments qu'elle fait valoir. Alors ce qui est annoncé aujourd'hui, ce serait donc la fin de ce processus qui aura quand même pris 6 ans, mais qui aurait pu prendre encore plus de temps, Amazon ayant maintes fois menacé son intention, enfin dit son intention d'aller en justice, donc devant le Conseil d'État potentiellement pour se défendre. Au final, donc pas besoin de cela, mais on ne connaît pas le montant du redressement qu'Amazon a finalement accepté de payer pour ne pas élever encore le contentieux. Depuis, ce qu'on peut dire, c'est qu'Amazon a changé sa structure juridique. Son siège européen est au Luxembourg, mais elle déclare dorénavant ses activités de e-commerce faites en France en France. Alors, est-ce que cela limite réellement ses possibilités d'optimisation fiscale agressive? Sans doute pas, car le plus compliqué dans la taxation d'Amazon et des autres géants du numérique, ce n'est pas l'impôt dû pour les activités de e-commerce, mais pour les activités digitales. Et ce sont des difficultés à la fois techniques, mais bien sûr politiques.
Merci Marie Viennot. Un mot de politique avec le parti Les Républicains qui remporte donc les deux sièges qui ont été attribués hier soir lors de deux partiels, législatives partielles, première circonscription du territoire de Belfort. Le LR, donc Yann Boucard, s'impose nettement avec près de 60% des voix, plus de 8 points de mieux qu'en juin face au candidat du Modem. Et puis dans la première circonscription du Val d'Oise, la candidate La République En Marche, Isabelle Muller-Coy, a perdu sa circonscription prise en juin à la droite sans rival. LR Antoine Savigna l'emporte avec un peu plus de 51% des voix. C'est une première bonne nouvelle pour Laurent Wauquiez dans son offensive contre Emmanuel Macron. La porte-parole des Républicains soutient que la grande éloquence des discours d'Emmanuel Macron ne suffit plus aujourd'hui pour camoufler la politique qu'il mène. Et puis Laurent Wauquiez a fait un communiqué hier pour dire que la France du réel s'est exprimée malgré 8 mois de communication mensongère. Bonjour Pierre Moscovici.
Bonjour.
Vous êtes l'invité donc de la séquence interview aujourd'hui. On va parler évidemment d'Europe, d'économie, mais un petit mot de politique française. Est-ce que ce dont parle Laurent Wauquiez, cette France du réel, c'est un peu celle que, dont vous parlez aussi dans votre livre, mais pour redouter son retour? C'est dans votre livre qui s'intitule « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres », citation célèbre, publiée chez Plon, c'est-à-dire le retour du populisme.
Bon, il faut toujours se garder de tirer trop de leçons d'élections partielles. Retour du réel, en tout cas, ce qui est sûr, c'est le retour de la droite. Car ce sont deux circonscriptions qui sont historiquement de droite, qui, pour l'une, restent à droite, avec un écart creusé, pour l'autre, revient à la droite. C'est sans doute le signe que la stratégie de Laurent Wauquiez, qui n'a pas été démentie, va se durcir encore. Et cette stratégie, on le sait, c'est en effet celle d'une fusion, en tout cas intellectuelle, avec le Front National pour reséduire cet électorat qui a quitté les Républicains. C'est pour le parti au pouvoir le signe qu'il y a un challenge de droite, et un challenge de droite dur qui se profile. Laurent Wauquiez, je crois, veut installer une droite brutale, que je crois d'ailleurs capable d'expression assez violente. Et donc, il faudra réfléchir stratégiquement. Et puis, pour la gauche, c'est aussi le signe qu'on a besoin dans ce pays d'une social-démocratie profondément rénovée, parce que, oui, moi, ma conviction, c'est qu'Emmanuel Macron ne peut pas transformer le pays seul, et que si on dit qu'on est et de droite et de gauche, alors il faut des forces et de droite et de gauche. Et c'est pour ça que la France a besoin, comme l'Europe d'ailleurs, d'une social-démocratie qui retrouve ses fondamentaux, qui soit profondément européenne, qui soit capable de gouverner, qui soit attaché à l'économie de marché, qui soit beaucoup engagé dans l'écologie, mais qui soit aussi tout à fait déterminé à lutter contre les inégalités. Ça va être l'enjeu du prochain congrès du Parti Socialiste.
Alors, on dit beaucoup, Pierre Moscovici, puisque vous êtes, on le sait, commissaire européen, que précisément les élites, ceux qui dirigent, sont coupés de ces Français du réel dont parle Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à nouveau de des dirigeants, de ceux qui dirigent ces institutions, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, qu'on n'écouterait pas suffisamment?
Il y a une nécessité de prendre en compte la France dans sa diversité, j'allais dire toutes les Frances, pas seulement la France qui va bien, mais aussi la France qui souffre, la France qui est en difficulté, la France qui est en colère, la France qui est en révolte. Il se trouve que moi j'ai été pendant 20 ans député de la circonscription d'à côté, de celle du territoire de Belfort, celle de Montbéliard, Audincourt, Sochaux, et je connais ces électeurs qui sont pour beaucoup des électeurs ouvriers, qui ont le sentiment que la mondialisation les menace, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, le combat pour que l'Europe promeuve, mais aussi protège, et le combat contre les inégalités est un combat central. On ne peut pas, on ne doit pas l'oublier, sinon c'est pas le réel qui se venge, c'est cette France sourde, silencieuse, qui soit ne va plus aux urnes, il y a quand même une abstention massive hier, soit exprime des protestations qui peuvent être dures.
Voilà, on reviendra sans doute sur ces questions, notamment quand on parlera peut-être de Davos dans la séquence interview. On dit un mot avant de cette visite d'Emmanuel Macron demain en Corse, qui s'annonce particulièrement délicate. En tout cas, le ton monte de part et d'autre. Le président de l'exécutif local, Gilles Simeoni, affirme que l'État doit accepter le dialogue avec les nationalistes en Corse, sans quoi, affirme-t-il, il risque de provoquer une grave crise politique. Et puis de l'autre, il y a des opposants qui le mettent en garde. Ainsi, le socialiste Luc Carvounas, qui dit attendre que M. Macron soit très clair. Les Corses, la Corse, c'est la France. La France est une et indivisible, estime le candidat socialiste, donc au poste de premier secrétaire du PS. Quant à la porte-parole du parti Les Républicains, Laurence Seyer, elle évoque des dissensions au sein même de La République En Marche.
Je pense que la situation de cacophonie dans laquelle va arriver demain le président de la République n'est déjà pas un bon démarrage pour une quelconque négociation. Comme vous le savez, les élus En Marche ont voté une résolution, et c'est très important. Cette résolution, l'ont voté massivement. Hier, Christophe Castaner a dénoncé justement leur position. Je pense que c'est compliqué pour le président de la République, et on se pose aussi la question de l'autorité du président de la République.
Mais il faudrait quand ses propres faire des
élus
gestes...
vont à l'encontre même de ce qui a été décidé par le parti.
Il faudrait faire des gestes en rapprochant, par exemple, les prisonniers de Corse qui sont sur la métropole, les rapprocher de leur famille. Il faut faire ce type de gestes ou pas ?
Ce que je peux vous dire, monsieur Apathy, c'est qu'en démocratie, il n'y a pas de prisonniers politiques.
Voilà, Laurent Seyer avec Jean-Michel Apathy, on l'a reconnu sur France Info. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Donc Emmanuel Macron arrive demain en Corse, il va devoir faire preuve de beaucoup de doigté pour réussir, cette fois-ci encore, la martingale, j'allais dire, en tout cas la recette du « et en même temps girondin, en même temps peut-être un peu jacobin ».
Eh bien oui, parce que ça tire de toutes parts. Côté nationaliste, il y a d'abord la manifestation de samedi dernier qui a réuni 5000 personnes selon la police, 25000 selon les organisateurs. Démonstration de force qui fait dire au président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni, qu'il n'y a pas de stratégie de rechange pour l'île de beauté. Je rappelle que les nationalistes qui ont été confirmés lors des élections territoriales de l'an passé demandent une plus grande autonomie fiscale mais aussi sociale, autonomie, qui devrait passer par une révision constitutionnelle pour inscrire dans la loi fondamentale une véritable spécificité corse, comme pour l'outre-mer. Et il pousse ses nationalistes avec cette fameuse résolution votée en fin de semaine dernière à l'Assemblée de Corse, résolution soutenue par les élus macronistes, bien qu'ils aient été désavoués hier soir par le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. C'est vrai, ça fait désordre. De l'autre côté, Matignon et le président du Sénat, Gérard Larcher, incontournable pour réformer la Constitution. Il a fixé ses lignes rouges, le troisième homme de l'État. Il joue le rapport de force avec le chef de l'État pour maintenir cette République une et indivisible. Mais il y a tout de même un espace sur lequel pourrait se fixer Emmanuel Macron pour son fameux en même temps, celui d'un droit à la différenciation permis par l'article 72 de la Constitution. Article qui aujourd'hui permet à la métropole de Lyon ou encore à la ville de Paris d'expérimenter des dispositifs sans qu'ils soient généralisés au niveau national. Alors ça ne sera pas assez pour les nationalistes, c'est sûr. Mais cela permettrait à Emmanuel Macron de se montrer à minima ouvert.
Anne Fauquemberg, merci. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonce son intention de confier aux sociétés de sécurité privée des missions qui sont jusqu'à présent exercées par la police et la gendarmerie. Il y a une mission parlementaire qui doit être constituée pour faire des propositions en ce sens d'ici la fin du printemps. 12h47, retour vers notre invité, donc la séquence interview, le commissaire européen Pierre Moscovici. Question de Marie Viennot.
Oui, bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Alors vous avez dit hier que vous présenteriez fin mars une réforme de la fiscalité du net pour que les géants numériques que sont Amazon, Google, Apple, mais aussi Airbnb, Booking, etc. Soient réellement taxés. Allez-vous proposer la taxation du chiffre d'affaires comme le veut la France ?
Le 28 mars, je proposerai une réforme d'ensemble qui reposera d'abord sur l'idée d'une assiette commune consolidée d'impôts sur les sociétés. On en a besoin à l'échelle européenne, c'est-à-dire d'une base commune, mais aussi une consolidation des résultats des groupes.
Ce serait la finalisation de ce projet.
Pour éviter qu'il y ait du transfert de profit. Et il me semble que la meilleure façon de taxer les géants du numérique, les grandes entreprises, en général au-dessus de 750 millions d'euros, c'est de faire en sorte d'inclure ce qu'on appelle la présence digitale, c'est-à-dire de mesurer quelle est leur activité effective à travers le nombre de clics, le nombre d'adresses IP ou encore les recettes publicitaires. Et donc ça, c'est une grande réforme structurelle. C'est l'impôt des sociétés du 21e siècle. C'est ça que je compte faire. Et la proposition est déjà sur la table. Je veux l'enrichir. Et puis, après, il faut être capable aussi d'avoir une solution peut-être de plus court terme qui permet de dégager des recettes pour les États membres, à hauteur de peut-être quelque chose comme 5 milliards d'euros. Il y a plusieurs propositions qui peuvent être envisagées. La proposition française d'une taxe sur le chiffre d'affaires en fait partie. C'est pas forcément la plus simple parce qu'il faut éviter les doubles impositions. Il y a déjà l'impôt sur ces sociétés qui existent. Mais il y a aussi une taxe sur les recettes publicitaires. Nous travaillons en lien avec les grands pays, notamment avec la France, pour définir ce que pourrait être cette taxe sur le revenu des entreprises du net. Et il faudra ensuite que cette proposition soit suffisamment forte et réaliste pour être adoptée très vite. Nous avons un mandat du Conseil européen. J'ai un mandat du Conseil européen et je compte agir de manière décisive parce que aujourd'hui, ces entreprises payent, je crois, à peu près 9% d'impôts sur les sociétés, là où les autres payent 23%. C'est insupportable. Et nos concitoyens demandent, ils nous demandent que les entreprises du net payent leurs impôts là où elles créent de la valeur et des profits.
Alors, on reste dans ce sujet de l'optimisation fiscale. L'Union européenne s'est mise d'accord sur une liste de paradis fiscaux. La Commission européenne n'est pas décisionnaire sur ce sujet, mais elle a aidé à sa mise en place. Donc, de 17 pays qui étaient sur la liste noire, 8 ont déjà été retirés. Est-ce que vous savez, vous, commissaire européen, les engagements que ces pays ont pris pour être retirés de la liste ?
Oui, je le sais. Mais il faut bien comprendre que d'abord, c'est une décision du Conseil des ministres. Il faut en saisir l'essence. Quand un pays prend des engagements de revenir sur un certain nombre de législations qui sont contraires aux standards internationaux. Exemple, le Panama avec les machines à sous. Alors, d'après les ministres des Finances, ils passent de la liste noire à la liste grise, qui est quand même la liste principale, plus de 55 pays, c'est ceux qui justement prennent des engagements. Soit ils les tiennent, ils sortent de la liste, soit ils ne les tiennent pas et ils reviennent sur la liste noire. Mais pour que tout ça soit crédible, je veux lancer deux appels aux ministres des Finances, aux États. Premier appel, il est essentiel que les engagements pris, que je connais en effet, parce que je suis dans le circuit, dans la boucle, soit rendu public, qu'il y ait la transparence. On ne peut pas demander la transparence aux autres et ne pas être transparent soi-même.
Et ça, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Vous leur
avez
déjà demandé ?
Je souhaite que les ONG, que les médias, que les parlementaires, que les citoyens puissent savoir précisément ce que le Panama propose, que la Suisse envisage,
etc. Mais ça, vous vouliez le demander il y a 3 semaines déjà. Est-ce que vous avez des réponses ?
Je l'ai fait. J'ai une réponse polie. Ce n'est pas une raison pour ne pas m'accrocher.
Pourquoi ne pas attendre des faits avant de sortir les pays de cette liste ?
Ben,
ce qu'il y ait des engagements soit suivis des faits. Voilà. Après, on enlève le pays de la liste, ça paraîtrait plus logique.
Non, mais il serait bon quand même de savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le Panama ou la Suisse ou les Virgin Islands ou l'île de Man ou Jersey Guernsey sont sur telle ou telle liste et ce qu'elles entendent changer. Vous avez le droit de le savoir pour informer là-dessus. Et puis, je crois aussi que c'est ce qui permet d'avoir une pression citoyenne. C'est ça qui fait bouger les choses. Et ma deuxième demande, c'est que il n'y a pas de liste noire qui soit crédible s'il n'y a pas de sanctions. Il faut que les États membres définissent des sanctions pour les pays qui sont sur la liste noire ou qui y seraient demain. La Commission européenne va prendre une initiative pour ce qui la concerne. Je souhaite qu'aucun fonds de l'Union européenne, notre budget ou alors les banques qui dépendent de nous, la Banque européenne d'investissement, la Banque européenne de reconstruction et de développement, aucun de ces fonds ne transite par les circuits financiers de paradis fiscaux. Il faut que les États soient à la hauteur.
Alors, pour revenir un peu sur l'établissement de cette liste, donc comme je le disais, la Commission européenne n'a pas décidé, mais au moment où il y a eu un peu cet emballement médiatique pour savoir quels seraient les pays qui seraient dessus, il y a des pays, notamment le Luxembourg, qui disaient en arrivant à la Réunion, on va bien voir ce que la Commission nous a préparé. Donc, façon de dire qu'en fait, les ministres des Finances du Conseil européen n'étaient pas vraiment décisionnaires. Et on a souvent, sur ces sujets fiscaux, un peu, on a l'impression qu'on se renvoie la balle.
On va être extrêmement précis.
Oui.
On peut avoir tout baratin de la part de n'importe quel ministre, c'est son droit, mais le fait est que la Commission a proposé le principe de la liste, que la Commission n'est pas décisionnaire et que ce sont les ministres qui l'ont décidé, point. Et eux seuls. Ils sont les seuls responsables de cette liste. Et
comment pour éviter ce clair-obscur, pour reprendre les termes de votre livre, pour qui alimente un sentiment anti-Bruxelles quand même, et ce sentiment qui est alimenté par les pays eux-mêmes, mais enfin leurs dirigeants.
D'abord, c'est plutôt un progrès d'avoir cette liste. La Commission a proposé le principe, c'est la première liste de l'histoire, et pour la première fois, il y a des pays qui prennent leurs engagements, donc il faut arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais il faudra sans doute clarifier les choses, et moi je souhaite par exemple que dans le cadre du suivi des engagements, ce qu'on appelle le groupe Code de Conduite qui dépend des ministres, eh bien, travaille plus étroitement avec la Commission et que la Commission joue un rôle accru. Je pense que c'est une bonne chose.
On voit bien que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les ministres, mais pour quelles raisons sont-ils si pressés d'enlever le Panama de la liste des paradis fiscaux, à votre avis ?
C'est pas qu'ils soient pressés, c'est qu'il y a une logique. Ils disent, dès lors qu'un pays a pris un engagement, alors il doit être sorti de la liste et mis sur la liste grise. Et ce qui veut dire qu'il va falloir aller au-delà. Moi, j'ai eu une autre réflexion qui est sur ce que j'appelle les trous noirs fiscaux.
Ah voilà, je voulais vous en parler, c'est expliquez-nous les trous noirs fiscaux, ils se trouvent en Europe.
Je constate que beaucoup de gens me disent, mais alors en Europe, votre liste ne comprend pas de paradis fiscaux, alors qu'il y a des pays qui, évidemment, sont des lieux de destination privilégiés pour ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, c'est-à-dire pour payer des impôts très faibles. Et on cite le Luxembourg, on cite Malte, on cite Chypre, et on cite les Pays-Bas. Je crois qu'il faut comprendre qu'en effet, ces pays ne sont pas des paradis fiscaux au sens des normes internationales.
Trou noir, c'est pas mieux. Alors, expliquez.
Trou noir, c'est différent. C'est l'idée qu'ils sont des destinations privilégiées parce que telle ou telle législation n'est pas adaptée, parce que telle ou telle législation n'a pas été abolie. Et donc, je pense qu'il faut une réflexion un peu différente. D'abord, identifier ce que sont ces trous noirs, chercher ce que sont les procédés, les processus, les législations qui ont permis ce traitement avantageux, et puis ensuite le changer. Donc c'est un combat plus sur l'aspect économique, sur les flux qui doit être menée plutôt que sur le droit. Parce que en matière de droit, oui, on peut le dire, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. Tant mieux, c'est déjà un progrès, mais ça ne suffit pas. Il faut faire en sorte de lutter contre ces trous noirs fiscaux. Pourquoi ? Pour que, de facto, l'Europe ne soit plus une terre privilégiée pour l'optimisation fiscale. Et elle a d'autres atouts, je crois, pour développer son attractivité.
Toute dernière question, Mariano. Politique peut-être, parce que on parle de vous pour être le futur ministre de la zone euro, de l'économie. Est-ce que, puisque si la réforme du président aboutit...
Écoutez, ça fait 7 ans que je suis dans ces conseils, le conseil Ecofin. Je l'ai été 2 ans comme ministre des Finances, je suis depuis 5 ans comme commissaire. Donc c'est pas un problème personnel, et je fais pas de plaidoyer pro domo. Ce que je sais, c'est qu'il n'est plus tolérable qu'on prenne des décisions dans le cadre de ce qu'on appelle l'Eurogroupe sans contrôle démocratique. Je serai en Grèce jeudi et vendredi. Sur la Grèce, on a pris des décisions depuis 10 ans qui sont très dures pour le peuple grec. Et une décision contrôlée, c'est mieux qu'une décision qui se déroule à huis clos. Voilà la raison pour laquelle il faut impérativement que la réforme de la zone euro qui doit aboutir en juin débouche sur un ministre des Finances de la zone euro qui soit contrôlé par le Parlement européen, que ce soit moi ou un autre, peu importe, je ne suis pas le moins qualifié, peut-être, mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que ça existe. Il faut changer la règle du jeu, il faut introduire de la démocratie dans ces processus.
Voilà. On est candidat à ce poste ou on est pas... il faut poser sa candidature ?
Bon, il faudra être renommé dans la prochaine commission et ça, on verra. J'ai tout le temps.
Non,
j'ai encore du boulot.
Moi, je
ne pense pas à l'avenir, je pense à ce que j'ai à faire maintenant, effectivement, lutter contre les paradis fiscaux, sortir la Grèce de son programme, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'austérité en Europe, mais de la croissance, ça me suffit.
Voilà. Pierre Moscovici, merci beaucoup. Je renvoie à votre livre, donc « Chose vue au cœur du pouvoir », c'est le sous-titre, et le titre reprend une partie de la fameuse phrase de Gramsci sur la bête, dans le clair-obscur surgissent les monstres quand une période se termine et quand une autre n'a pas encore commencé. On est dans ce clair-obscur. Selon vous, c'est édité chez Plon. Il y a 45 départements qui sont placés en vigilance orange pour la neige et le verglas. Vigilance qui va durer jusqu'à 22h. Il y a encore 11 départements qui sont par ailleurs maintenus en vigilance orange crue, notamment dans le bassin de la Seine. Les températures cet après-midi de 2 à 13 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h avec Aurélie Kiffer.